Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire, présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Heures passées de quelques secondes sur Radion. Un très grand bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre en ce samedi 19 novembre pour un nouveau numéro de votre émission littéraire. C'est en effet Wagon Livre et nous vous accompagnons jusqu'à midi sur votre radio locale. Un Wagon Livre radio archive, c'est-à-dire que nous allons vous proposer des extraits d'entretiens déjà diffusés sur Radion. Certains ont plus de 10 ans. Je rappelle que Wagon Livre est né sur l'antenne de Radion il y a plus de 12 ans désormais. Alors nous disposons d'une riche sonothèque et nos archives sont extrêmement variées. Et il s'agit parfois de les réécouter. Ce sont parfois de beaux morceaux d'émissions. Et nous veillons donc à les sélectionner et à vous les offrir en extrait. Je rappelle que l'intégralité de ces entretiens se retrouve sur le site d'archives de l'émission via internet sur yannickpetit.fr. Alors au programme de notre émission aujourd'hui, il sera question de l'association des amis d'Alphonse Allais et de l'Académie Alphonse Allais à travers les explications qui nous seront fournies par son porte-parole Xavier Jaillard et Philippe Davis. Nous réentendrons l'actrice, comédienne et écrivain Macha Merrill nous parler de l'amour, de ses délices, mais aussi de ses ravages. Et puis nous réentendrons un entretien avec le monsieur chiffre du jeu télévisé des chiffres et des lettres, Bertrand Renard, qui avait été candidat à ce jeu et qui est devenu ensuite vraiment la tête pensante mathématique au tirage de ce jeu télévisé. Bertrand Renard, de formation littéraire, qui était d'ailleurs venu dans Lyon, je l'avais rencontré à Avallon en juillet 2012, et Bertrand Renard était venu réciter des textes à l'abbaye de Rény dans le cadre d'un festival estival. Nous réentendrons tout cela d'ici quelques minutes dans ce Wagon Livre. Mais nous ouvrons notre émission avec un extrait d'entretien enregistré en mars 2011. Au salon du livre de la chapelle Saint-André, un tout petit village de la Nièvre, et Denis Seznec était l'invité d'honneur de ce salon du livre. Denis Seznec est le petit-fils de Guillaume Seznec. Alors l'affaire Seznec, c'est une affaire criminelle dans laquelle Guillaume Seznec est reconnu coupable en 1924 du meurtre de Pierre Quémeneur, conseiller général du Finistère. Le jugement a fait l'objet de 9 demandes de révision entre 1926 et 2001, toutes rejetées, malgré un patient travail de collecte mené par des contre-enquêtes détaillées, emblématiques du journalisme d'investigation, et à travers aussi le combat du petit-fils de Guillaume Seznec, Denis Seznec, que vous allez entendre. Le procès Seznec s'est terminé le 4 novembre 1924. Guillaume Seznec est reconnu coupable de faux en écriture privée et du meurtre de Pierre Quémeneur. La préméditation étant écartée, il est condamné aux travaux forcés à perpétuité alors que l'avocat général avait requis la peine de mort. Alors après le rejet d'une première requête en révision déposée par sa femme, Guillaume Seznec est conduit en Guyane, d'abord au camp de la transportation de Saint-Laurent-du-Maroni, puis au bagne de l'île Royale et de nouveau à Saint-Laurent-du-Maroni en 1942. Plusieurs ouvrages d'ailleurs attestent des conditions de vie très pénibles qui étaient celles du pénitencier installé en Guyane. Et les conditions de vie au bagne, c'est ce que Guillaume Seznec va développer dans l'extrait que nous vous proposons. Guillaume Seznec enregistré en mars 2011.
Pour un vol de brouette, on pouvait être condamné à 5 ans de bagne. Un vol de brouette? Vous dites ça à un jeune maintenant, mais le type il hallucine. Il vole un camion et il va pas faire une journée. Enfin, j'exagère un poil. Mais c'était ce qu'on appelait la règle, la relégation, que les Américains imitent. C'est une invention française. Je vous le dis parce que c'est en cours et la majorité des États américains l'appliquent maintenant. il suffit de trois peines de plus de 3 mois de prison dans les 10 ans et vous deviez faire 50 bagnes. Moyenne de vie, 4 ans. Alors, actuellement, aux États-Unis, actuellement, il y a quelques années, il y a par exemple un black, je fais exprès de le dire parce que c'est l'image, un black qui a volé un téléviseur noir et blanc. Excusez-moi, je ne savais même pas que ça existait encore. Il a volé un... Mais comme c'était le troisième délit, il s'est retrouvé avec 25 ans de prison ferme pour un téléviseur noir et blanc.
Alors, revenons à votre grand-père au bagne.
Oh, pardon, excusez-moi.
S'il vous plaît. Oui,
oui.
Alors, il aurait côtoyé Henri Charrière.
Oui, enfin, Charrière le raconte dans son livre. Ouais, il le raconte dans son livre. Moi, je mets en doute quand même, parce que mon grand-père, c'était pas le genre. Il l'a croisé sûrement, mais fréquenté sûrement pas. Parce
donc
que...
Henri Charrière, c'est un ancien proxénète. Hein. Mais ouais, votre grand-père, c'était... il avait le respect des femmes. Hein.
Ouais,
il est très généreux au bagne. Apparemment, le peu qu'il a, il le partage avec ses compagnons d'infortune.
Et d'ailleurs, il y a un sondage d'opinion inventé. Ça a été inventé à l'occasion du bagne par Albert Londres. Ils ont fait un sondage d'opinion demandant aux lecteurs d'une revue qui était moderne à l'époque, qui a toujours le même titre, mais qui n'a plus rien à voir. C'était l'Express de l'époque, c'était Détective. Et c'était Gallimard qui l'avait, vous voyez, avec
Kessel.
Joseph Kessel.
Tout à fait. Vous voyez
que c'était des grands noms. Ils ont inventé le sondage d'opinion. Et ils ont demandé aux lecteurs de voter pour des bagnards dont ils exposaient le cas. Il y en avait une vingtaine, je crois, une quinzaine, et dont il y avait Cessnec, entre autres. Et ils ont demandé de voter. Et ils s'engageaient, Albert Londres, ils s'engageaient. Le type qui arrivera en tête, le bagnard en tête, a demandé sa grâce au président de la République de l'époque, président du Conseil de l'époque. Et mon grand-père est arrivé deuxième ex aequo. Ex aequo, parce qu'ils étaient deux. Hein. Et le premier, c'était un véritable assassin. Alors lui, il n'a pas contesté, il n'était pas innocent du tout. Mais il est devenu tellement extraordinaire au bagne, il est devenu une sorte de curé, de saint, que les gens étaient très touchés par son parcours. Et c'est lui qui a été gracié. Et mon grand-père était deuxième, ex aequo.
Alors, au bagne, hein. Votre grand-père...
Il aurait pu être gracié.
Il tient le choc au bagne.
Oui, alors, à mon avis, il y a deux éléments.
Votre grand-père, c'est un homme de 45-46 ans.
49 ans.
49 ans.
Il arrive à 49 ans. Il échappe à l'homosexualité peu ragoûtante, là-bas, au bagne. Viol et tout. Hein. 49 ans, on n'est plus de la chair fraîche, hein, comme on dit. L'autre élément, c'est qu'on l'envoie dans les îles du salut, les îles du diable, où le climat est favorable. Il n'y a pas de tarentule, pas de serpent, des choses comme ça. Et ce qui fait que là, il y a 500 bagnards les plus connus, les plus célèbres, se contenter de s'évader. Et mon grand-père, c'est la célébrité du bagne.
Mais votre grand-père, il se serait évadé?
Non,
fait
il a tenté.
Il a tenté,
il s'est évadé une fois à Saint-Laurent, tout au début, avec le docteur Bougrat. Et avec 19 bagnards, et c'est le seul que le gouvernement a réclamé et qui a été restitué au bout de 3 mois.
Et vous, Denis Cesnec, lorsque vous allez au bagne pour la première fois voir lieu où ce grand-père que vous avez connu enfant a passé un tiers de son existence, vous êtes complètement ému.
C'était en 87 et je suis tombé sur une équipe de cinéastes, c'était un hasard. Hein. Richard Berry, tout ça.
Oui, donc c'était le futur film de Yves Boisset.
Non, c'était un autre.
Ah oui, c'était Cayenne, je crois.
Cayenne Palace.
C'est ça.
Oui, c'était un film, voilà. Je suis tombé dessus par hasard. Hein. Ils étaient en plein tournage. Je venais en pèlerinage, en quelque sorte. Et je me suis même trompé au début. J'ai mis une Vierge de Bretagne et une plaque sur le phare jusqu'au jour.
Le sémaphore dont s'occupait votre
grand-père. Et c'était le sémaphore, oui. Mais je m'étais trompé, j'avais mis sur le phare au début. Et ce qui est marrant, c'est que maintenant, je peux réveiller à prescription. Il y avait des Lorientais qui étaient là. Alors, bien sûr, en Bretagne, je ne vous raconte pas l'affaire Cessnec. Hein. Et parmi les personnalités qui étaient là, il y avait le type qui construisait les prisons pas chères de Chalandon. Et il m'a aidé à mettre la plaque. Non, c'est le type qui m'a dit, surtout pourvu que ça ne se sache pas. Mais maintenant, il y a prescription, on peut en parler. Hein.
Donc, cette plaque, elle y est toujours.
Maintenant, oui, je l'ai déplacée parce qu'après, je l'ai mise sur le sémaphore. Mais il m'a aidé à le mettre sur le phare, lui. Parce qu'on s'est trompé. Et quand on s'est rendu compte que le phare était construit en 34, c'était pas possible. Donc on a tout décollé avec du ciment prise rapide. Hein, et on l'a remis sur le sémaphore que j'ai dû dégager à la machette.
La végétation ayant tout envahi, recouvert.
J'étais même piqué par des mouches à feu. On appelle ça des mouches à feu. C'est des sortes de super guêpes qui m'ont... C'est terrible, d'une piqûre, c'est la fièvre tout de suite. Hein.
Mais avez-vous vu la cellule du capitaine Dreyfus?
Non, j'y étais, mais c'est à l'île du Diable, c'est interdit, totalement interdit. Mais comme le centre spatial soutient en gros mon combat, à l'époque, le patron m'avait prêté, façon de parler...
Un hélicoptère?
Son hélicoptère. Oui. Donc j'ai été et suivi par un caméraman de Kappa Productions, Et les autres sont restés dans les autres îles parce qu'ils ne pouvaient pas emmener trop de monde. Hélicoptère avec interdit. C'est interdit les hélicoptères, sauf le patron et la Légion, bien sûr.
Et pourquoi? Pour des raisons de sécurité?
De sécurité, oui, parce que
de protection
tombe,
de la.
S'il tombe dans la jungle, on ne le retrouve pas. C'est pire que l'océan. Alors, il faut le savoir. Hein. C'est terrible, un hélicoptère, un avion qui tombe dans la forêt, dans la jungle, on ne le retrouvera jamais. C'est jamais arrivé, d'ailleurs. Ah oui, sauf si c'est des flammes et encore de la fumée. C'est un océan, la jungle, là-bas. Bon, mais pour les îles, quand on m'a déposé avec un caméraman et le pilote, bien sûr, qui était son dernier jour, entre parenthèses, eh bien, il avait interdiction de s'arrêter, parce qu'on ne pouvait pas le dépanner. Donc, il dépose et il repart. Il revient vous chercher. Et donc, ben, la cellule de cet refuge, oui, je l'ai visitée. Et à l'époque, c'était, maintenant, je peux vous le dire, parce que maintenant, il y a prescription aussi, c'était un secret d'État, parce que François Mitterrand, président de la République, devait inaugurer pour l'affaire Dreyfus. Alors secrètement, les légionnaires la remettaient en état. Et donc j'ai visité, et à l'époque on m'avait dit surtout de me taire, de ne pas en parler, parce que c'était un secret d'État en quelque sorte. Bon, sauf qu'entre-temps, Mitterrand est mort, les choses ne se sont pas faites. Alors cette cellule, elle est coupée en deux, avec Dreyfus était d'un côté, et avec un mur de 2,70 m autour.
Oui, donc Dreyfus n'avait aucune
pas la mer,
vue.
Il voyait pas la mer.
Et donc il y avait une grille devant lui. Il était gardé par deux soldats qui ne devaient pas lui parler.
12 gardiens.
12 gardiens.
4 par 4.
Pour le seul
capitaine. À mon avis, avec humour un peu provoque, je dis pour la belote. Et ils avaient interdiction de lui parler. Il n'y en a qu'un en 4 ans qui va lui dire une seule parole, mais vite, comme ça, pendant qu'il le croise, et dit « Quelqu'un s'occupe de vous en France ». C'était Émile Zola. Mais s'il n'avait pas fait ça, il devenait fou, parce que ses écrits, ils avaient un régime un peu spécial, les politiques. Hein. Ils étaient 12 du temps de mon grand-père. Ils avaient une maison individuelle, ben, Dreyfus, mais ils étaient isolés, la plupart se suicidaient. Et il y en a un qui était devenu fou, il portait des pierres par exemple, d'un bout de l'île, et il les portait toute la journée, il portait des pierres à l'autre bout, 600 mètres. Hein. Parce qu'il espérait combler, combler entre l'île et la France. Combler l'Atlantique.
Mais hein. Votre grand-père a essayé de construire un petit bateau.
Ah oui, mais alors lui, il a l'île royale, mais lui, pour s'évader. Mais la folie, à mon avis, on devient zinzin quand même. Il avait 53 ans. Et il a construit. Alors d'abord, ça montre la classe de mon grand-père. Il a construit la chaloupe comme en forme de. C'est un WC en forme de chaloupe, mais il a attendu que son gardien Pinelli, un Corse, soit absent. Il avait une permission de 6 mois tous les 2 ans. Parce qu'il faut savoir qu'ils perdaient des mois de sol si un bagnard tentait de s'évader quand ils étaient de là. Alors donc, vous voyez, la classe de mon grand-père, il a attendu que son gardien soit absent. Et alors, ce que j'aime bien, maintenant je vous le révèle, parce que moi j'ai vu les archives, les cahiers secrets de mon grand-père, vous savez, il écrivait secrètement, et j'ai vu les rapports, j'ai vu les deux en fait. C'est extraordinaire de voir les deux pour les mêmes événements. Et il y a un journaliste notamment qui s'appelait Marius Larrigue, un grand journaliste qui n'est pas aussi connu de la Berlande, mais c'est un grand journaliste. Il y avait un bateau par mois qui partait de Cayenne. Et il y a le gouverneur de Guyane qui lui dit « Je serai vous, je ne partirai pas parce qu'il va y avoir une évasion retentissante d'un peu de temps. » Le journaliste lui dit « Mais qui ?» Il dit « Ah non, non, je ne peux pas vous le dire, mais on est en train de le surveiller et il va tenter de s'évader. » C'était mon grand-père. Hein. Et le journaliste raconte dans les revues de genre détective, il raconte que effectivement, ça ne serait pas petit, j'en parle dans mon livre, elle sera retentissante. C'est Cessnec. Et les gardiens savaient qu'il a laissé, il avait été donné en fait, hein. Mais ils ne savaient pas où il avait mis sa chaloupe. Alors ils allaient dans les WC, non mais c'est obligé de me marrer, ben, ils allaient excuse-moi, faire leurs besoins dans le WC, et en fait ils ne savaient pas que la chaloupe qu'ils cherchaient partout discrètement, parce qu'il ne fallait pas que ça, hein, il la cherchait pendant des mois, ils ne savaient pas qu'ils allaient dans les toilettes. Mon grand-père avait, alors quand il l'a mis à l'eau...
C'était astucieux, effectivement.
Oui, c'était astucieux, mais il était...
Et drôle après coup.
Ben oui, alors la folie, c'est qu'à 53 ans, il voulait traverser l'Atlantique. Il aurait été mieux que d'Abbeville. C'est complètement absurde.
Denis Cesnec, à l'instant, enregistré en mars 2011 au micro de Wagon Livre. Denis Cesnec, donc le petit-fils de Guillaume Cesnec. Je vous renvoie d'ailleurs à ses écrits. D'abord, « Nous, les Cesnec », paru chez Robert Laffont en 1997, mais la première édition date de 1992. Et puis, il y a aussi « Cesnec, le bagne », avec des photographies et de nombreux documents, également disponible chez Robert Laffont, c'était en 2001. Et puis toujours de Denis Cesnec, l'affaire Cesnec en photo, des assises au bagne, chez Robert Laffont en 2010. Vous écoutez Radion et nous vous accompagnons en cette fin de matinée pour votre émission littéraire. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. Après la pause musicale que nous vous proposons, vous pourrez entendre un extrait d'un entretien avec Bertrand Renard, le monsieur chiffre du jeu télévisé des chiffres et des lettres. Nous revenons d'ici quelques minutes.
J'attendrai gentiment que les gens s'en aillent. C'est le slow qui s'annonce, c'est bientôt la fin. La lumière se disperse et compose un tableau qui n'est que ce blanc. Et même si, dans le noir tu ne m'as pas vu, moi j'ai fixé ton corps et ça jusqu'à ne plus voir autre chose que deux êtres nus. Dans le sens où les projecteurs
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Comme je l'avais annoncé avant la pause musicale, nous allons maintenant entendre un extrait d'un entretien avec Bertrand Renard que j'avais rencontré à Avallon en juillet 2012. Bertrand Renard était venu dans Lyon pour réciter des textes dans un festival qui se tenait à l'abbaye de Rény. Et Bertrand Renard revient sur son passé et notamment son passé de candidat au jeu télévisé des chiffres et des lettres, puisque avant que de devenir le monsieur chiffre de cette émission, il a lui-même été candidat. Bertrand Renard.
Voilà, j'étais candidat, j'étais tout jeune. En 1974, j'ai rempli le contrat des victoires qui était nécessaire à l'époque, qui était de 12, et j'ai repris aussi sec mes études, qui étaient des études de lettres. Et quelques mois plus tard, le monsieur calcul de l'époque est parti, et comme apparemment j'avais assez brillé en calcul mental, de toute façon il fallait être aussi bon en chiffres qu'en lettres, ce qui est toujours le cas aujourd'hui, mais enfin j'étais un littéraire qui se débrouillait assez bien en calcul mental, à ma grande stupeur, et l'équipe, Yvette Plailly et Armand Jameau, m'ont demandé de prendre la place. Alors apparemment c'était une bonne idée parce que c'était un équilibre de génération. J'avais 20 ans, Patrice Lafont en avait 30, 40. Max Favalelli, qui était notre maître à tous, avait 70 ans. Donc il y avait un équilibre. Ça n'était pas une époque où on songeait à la parité. Mais il y avait au moins un équilibre générationnel entre nos trois personnages. Et ça a très bien fonctionné pendant des années. Ça a très bien fonctionné ensuite.
La lassitude ne vous gagne pas.
Alors la lassitude, elle a pu. Hein, je ne vais pas vous dire qu'il n'y a pas eu des périodes. Mais je dirais que depuis une dizaine d'années, non, pour plusieurs raisons. D'abord, c'est vrai que c'est une équipe avec Laurent Meschko et Ariel Pratt. C'est une équipe, et puis Patrice Lafont et d'autres qui sont à la... aux commandes de cette émission. C'est une équipe qui s'entend, il y a une vraie amitié. Ça n'est pas une formule, puisque le téléspectateur s'en rend compte. Une émission comme la nôtre, et il n'y en a pas beaucoup, est présentée tout de même par trois personnes. La balle doit circuler. Laurent Romeschko est un animateur central, comme l'était Patrice Lafont. Mais nous avons notre rôle d'arbitre et d'intervenant avec Ariel. Et s'il n'y avait pas une entente, s'il n'y avait pas une complicité, s'il n'y avait pas un échange, ça ne marcherait pas. Et le téléspectateur s'en rendrait compte et s'en irait voir ailleurs. Donc, effectivement, il y a cette entente. Et en plus, il y a un élément essentiel. Nous enregistrons les émissions. Donc, en gros, nous sommes les uns sur les autres, si je puis dire, une semaine par mois. Le reste du temps, chacun va qu'à ses occupations. Et voilà, donc bon, il n'y a pas de raison qu'il y ait une lassitude, puisque en fait, je ne replonge dans cet esprit, cette aventure, que pendant une semaine par mois.
Alors, aventure, et puis, vous êtes donc bien évidemment l'animateur arbitre des chiffres, mais votre plus grand rival, c'est Renardo, c'est l'ordinateur maintenant.
Oui,
vous allez
l'ordinateur.
Détrôner par
non, parce que non, parce que c'était voulu. À la limite, Patrice Lafont avait choisi de ne pas... nous avions depuis longtemps un petit dictionnaire, hein, un dictionnaire électronique qui nous donnait les mots, et Patrice Lafont avait décidé sur les chiffres, non, de ne pas le faire. Et puis, il y a eu une pression populaire, non pas du tout me remettant en cause, bien au contraire, mais pour dire, voilà, nous avons besoin de savoir, il n'y a aucune raison que les lettres nous donnent les mots les meilleurs quand les candidats ou les arbitres ne les voient pas et que nous n'ayons pas le même confort sur les chiffres. C'est plus la marque, alors c'est la marque effectivement de la demande des auditeurs, c'est la marque aussi de l'importance d'une société scientifique. Le coup de génie de Jameau, quand il a inventé ce jeu, a été d'installer les chiffres, parce que le mot le plus long existait alors depuis encore plus longtemps, c'était depuis une cinquantaine d'années. Et brusquement, il a eu cette idée formidable de mettre en 1972 ce calcul mental dans une société qui était encore largement littéraire. Et voilà, on a évolué, l'importance de l'informatique, l'importance des mathématiques, l'importance des sciences. Nous sommes devenus, enfin bon, les pontes de l'éducation, et tous les parents le savent bien, nos chères têtes blondes ont beaucoup moins de vocabulaire qu'avant, ne savent plus rédiger un texte. En revanche, sur les questions scientifiques, y compris et surtout dans leur application, d'ailleurs informatique, voire ludique, ils sont beaucoup plus forts que nous.
La progression d'une forme d'inculture vous inquiète-t-elle ?
Je ne suis pas sûr. Je ne sais pas si c'est une forme d'inculture. C'est une autre culture. Je vous dirais qu'elle va m'inquiéter. Elle va m'inquiéter parce que ce sont des choses qui me touchent. Je suis encore une fois, vous l'avez dit, littéraire. J'ai cette formation littéraire. Je suis passionné par les arts. Je suis en réalité historien de formation, ou en tout cas féru d'histoire, et je pense assez compétent dans ce domaine. Donc, vous voyez, on est vraiment dans ces domaines qui sont aujourd'hui soit effectivement en déshérence, comme notre langue. Et comme l'histoire qu'on étudie plus guère ou qu'on étudie beaucoup moins, et soit qui n'ont jamais été traités par l'école et l'éducation malgré toutes les déclarations qu'on a pu faire, comme les arts et la musique. Donc effectivement, d'un point de vue personnel, oui, ça ne m'enchante pas. Maintenant, les jeunes générations ont d'autres connaissances, une autre manière de penser, une autre manière de réagir. Donc, je ne veux pas céder à ce pessimisme-là. Et puis, il y a une chose aussi qu'il faut tout de même regarder. On a l'impression qu'à partir du moment où on sort de l'école, où on sort de l'université, où on sort de l'apprentissage, on cesse d'apprendre. Or, on ne cesse jamais d'apprendre. Enfin, on en a tous des exemples et nous en sommes peut-être tous nous-mêmes des exemples. On continue d'apprendre. Regardez, moi, je me souviens que j'étais un des rares à aimer l'histoire dans les petites classes. Or, les Français se passionnent pour l'histoire, c'est bien connu. Regardez le succès d'émissions comme Des Racines et des Ailes, par exemple, ou les secrets d'histoire de Stéphane Bern, qui sont, même si c'est l'histoire par l'anecdote, mais c'est la meilleure manière, finalement, d'aller vers l'histoire que de rappeler que ces gens étaient des gens comme nous, différents de nous et nos ancêtres.
Alors, vous parlez d'histoire, la passerelle est relativement bien trouvée. Bon, on a parlé de la longévité de ce jeu des chiffres et des lettres. Il semblerait même que ce soit peut-être l'émission
Ça n'est pas peut-être. C'est l'émission la plus...
Longue.
Si vous acceptez, bien sûr, le journal qui est là depuis. Et puis, les émissions religieuses. Il y avait la messe déjà au début de la télévision.
Alors, est-ce qu'on pourrait un jour... Est-ce qu'il vous arrive, Bertrand Renard, d'imaginer que des chiffres et des lettres disparaissent de la grille des programmes de la chaîne publique?
C'est parfaitement envisageable.
Pas d'inquiétude pour l'instant.
Non, pas d'inquiétude pour l'instant. Nous ne sommes pas... rien n'est éternel et nous sommes déjà extrêmement surpris que nous soyons là depuis tant d'années. Alors en même temps, on travaille à faire en sorte que ce programme perdure. C'est notre bébé, ça fait partie du patrimoine. On essaie de faire en sorte, effectivement, de garder les spectateurs, parce qu'aujourd'hui, effectivement, tout le monde l'a plus ou moins regardé. Enfin, ça fait tellement de temps que toutes les générations, et parfois, alors les gens de 30 ans, on l'a vu avec nos grands-parents. C'est une sorte de mélange générationnel et parfois
de communion.
Voilà,
familiale.
De communion, parce que parfois des Madeleines de Proust ou effectivement des gens qui sont de jeunes adultes vont nous raconter les souvenirs qu'ils avaient quand ils étaient tout petits enfants de leurs grands-parents qui sont décédés. Donc, vous voyez, on repart dans le passé avec eux qui sont dans leur enfance et à qui ça rappelle des générations qui sont mortes et qui étaient des passionnés de l'émission. Donc, c'est très touchant, très émouvant. Et ça nous arrive maintenant, ça nous arrive tous les jours de voir
De votre présence dans Lyon, là, ce 14 juillet, c'est que vous étiez le récitant d'un texte d'un écrivain suisse...
Charles Ferdinand Ramu, sûrement le plus grand écrivain de langue française helvétique. Vous voyez, j'étais même persuadé qu'il avait le prix Nobel.
Peut-être.
Oui, alors Nicolas Bouvier, c'est dans un autre genre, parce qu'on est plus dans le voyage. Là, je parle de la fiction. Il y a évidemment un Jacques Chessex, aussi dans les contemporains, mais dans ce qui était l'écriture, le XXe siècle, la glorieuse époque du XXe siècle, où face à Ramu, il y avait des Gide, des Proust, des Mauriac, des Martin Dugard, enfin, c'était cette génération-là. Et Ramu est vraiment un immense écrivain qui est un écrivain justement qui nous rappelle combien notre langue française est belle quand elle est aussi amoureusement aimé par les pays qui nous entourent. Et Ramu n'est pas assez lu, et il a une saveur. Alors, c'est un écrivain qu'on présente comme régionaliste qui, chez nous, n'est pas très bien vu, ce qui est absurde, parce que... C'est réducteur chez nous de dire écrivain régionaliste. Un Giono souffre encore d'être considéré comme... et de s'être... considéré lui-même comme un écrivain provençal, donc régional, alors que c'est un des plus grands écrivains. Quand je pratiquais la littérature, si vous posiez la question quels sont pour vous les cinq plus grands du XXe siècle, ou quels sont vos cinq préférés à des écrivains, la plupart du temps, Giono apparaissait dans la série.
Alors, et vous, Bertrand Renard, quels sont les...
Moi, j'aime beaucoup Giono. J'aime beaucoup, beaucoup Giono.
Et un souvenir marquant de lecture dans votre jeunesse, un révélateur peut-être aussi.
Alors, j'ai deux révélations. Le livre que j'emmènerai sur une île déserte parce que je m'y retrouve, et de toute façon, il faut tout de même sur une île déserte ne pas avoir un livre de 25 pages, mais un livre, donc c'est la recherche.
Voilà. Ah, carrément.
Oui, c'est la recherche. Ça fait au moins 3000 pages et j'ai le temps, mais bon, je m'y immerge. avec beaucoup plus de bonheur que dans de, gros, de très longs textes comme les Mémoires d'Outre-Tombe, qui sont admirables, bien entendu, aussi. Mais c'est la recherche. Mon premier grand événement littéraire, mon premier coup sur la tête, était une lecture théâtrale. C'était la Cantatrice chauve de Ionesco quand j'avais 13 ans, et je me suis rendu compte qu'on pouvait faire de la littérature autrement et qu'on pouvait utiliser le texte et le sens du texte autrement.
Bertrand Renard, à l'instant, à notre micro enregistré en juillet 2012 à Avallon, alors qu'il participait à l'abbaye de Rény à un festival au cours duquel il était récitant d'une œuvre littéraire. Notre wagon livre se poursuit, nous allons marquer une nouvelle pause musicale. Juste après, vous entendrez la comédienne et romancière Macha Merrill nous parler de l'amour. Petite information que je glisse au passage. Mardi 29 novembre prochain, ça se passe à Dijon, c'est le club des écrivains de Bourgogne qui recevra Yves de Gaulle, le petit-fils du général de Gaulle, qui signe aux éditions Plomb un premier roman intitulé « Chevalier solitaire ». Yves de Gaulle sera donc l'invité du club des écrivains de Bourgogne, mardi 29 novembre dès 18h30 au salon Napoléon III du Grand Hôtel de la Cloche. C'est moi-même qui animerai cette rencontre en public et vous aurez l'occasion d'entendre Yves de Gaulle dans Wagon Livre courant décembre prochain. On se retrouve dans quelques minutes, toujours sur Radion, votre émission littéraire qui vous accompagne jusqu'à midi.
Donne-moi ton cœur, ta main et le reste. Donne-moi ce que tu es, ce que tu es. Dis-moi tes peurs, chagrin et le reste. Dis-moi qui tu es, qui tu es. J'imagine un monde céleste, où personne ne sort, non, où personne ne reste. J'imagine un cri, des cris dans la nuit. J'imagine tellement de choses de toi. C'est peut-être toi que je suis des fois. J'imagine un nid de récits, de mots tristes. J'imagine un lit, une insomnie complice. J'imagine une moi qui se noie dans tes vices. Sans foi ni loi, dans les mailles je me glisse. J'imagine un homme, une femme, une nourrice. Qui ne voit qu'un clone de moi dans mes disques. Un gros tantamarre dans mon âme novice. Je vais rentrer tard car je ne vois plus les risques. S'il te plaît, donne-moi ton cœur. Donne-moi ce que tu es. Ce que tu es. Dis-moi tes peurs. Dis-moi qui tu es. Qui tu es. Je veux revoir le monde de l'autre fois. Celui que le monde ne connaît pas. Je veux revoir l'ombre de l'autre toi. Celui que le monde ne connaît pas. Je veux revoir le monde de l'autre fois. Celui que le monde ne connaît pas. Je veux revoir en toi tout ce que je suis pas. Dis-moi qui tu es, mais surtout s'il te plaît, donne-moi ton cœur. Donne-moi ce que tu es. Ce que tu es. Dis-moi tes peurs. Dis-moi qui tu es. Qui tu es. S'il te plaît, donne-moi ton cœur. Donne-moi ce que tu es. Ce que tu es. Dis-moi tes peurs. Dis-moi qui tu es. Qui tu es.
Wagon Livre, Votre émission littéraire.
Merci de nous accompagner dans ce Radio Archive, votre émission littéraire sur Radionne. Je vous propose de réentendre un extrait d'un entretien que j'avais enregistré en février 2014 avec la romancière et comédienne Macha Merrill. Elle avait fait paraître chez Flammarion un recueil de 33 nouvelles regroupées sous le titre « L'amour dans tous ses états ». Et pour lancer Macha Merrill et ouvrir l'entretien, je lui avais soumis cette phrase qui figurait dans une de ces 33 nouvelles. C'est une obsession chez les Français, ils veulent savoir si on les aime. Macha Merrill.
C'est vrai, hein, on croule sous les sondages pour savoir si vous aimez un tel ou pas un tel et qu'est-ce que vous faites de ce sentiment. Alors la vérité c'est que ce livre est génial. Je me demande pourquoi personne n'a eu cette idée avant moi. L'idée de décliner l'amour, c'est pas seulement de... Alors j'ai une interdiction, c'est de prononcer le mot nouvelle. Mon éditeur m'a dit, les Français n'aiment pas les nouvelles, ils n'aiment pas les histoires courtes, il faut dire que ce sont des récits. Alors c'est une connerie parce que je pense que les nouvelles c'est un art très particulier qui nécessite beaucoup de savoir-faire et qui nécessite de raconter, c'est comme une chanson si vous voulez, il faut raconter en cours la même chose qu'un grand roman. Donc moi c'est un format qui me plaît beaucoup et que je trouve extrêmement difficile. Alors 33 histoires pour dire à quel point ça peut être différent l'amour et combien nous sommes gouvernés par ça. D'ailleurs écoutez, quel est le sujet principal de tous les romans et de toute la littérature depuis la nuit des temps? C'est l'amour. Parce que ça chapeaute tout. Je pourrais dire que c'est la seule valeur qui nous reste. Et ça me fait plaisir de voir que les philosophes, j'ai vu Luc Ferry, Comte Sponville, Alain Badiou, ils ont tous glorifié l'amour récemment, un peu parce qu'on est déçu des autres valeurs. On peut dire que Dieu est dans un placard. On peut dire que la raison a un peu échoué. Et que le siècle des Lumières doit se retourner dans leur tombe, tous. La politique, elle est franchement un peu décevante. La démocratie n'est pas parfaite. Qu'est-ce qui nous reste? Dans l'absolu, c'est l'amour. L'amour et la poésie, je les mettrais dans le même sac. C'est-à-dire cette chose qui nous révèle les parties les plus inconnues de nous-mêmes. Et donc, vraiment, je suis fière d'avoir enfourcher ce rôle de glorifier et de chanter l'amour.
Par conséquent, donc, présence obsessionnelle de l'amour dans l'esprit, dans le quotidien, dans l'histoire des sociétés et des cultures, certes, mais il y a une autre phrase que je trouve très intéressante et qui mérite commentaire et réflexion, Macha Merrill. Vous écrivez « L'amour ne fait pas le bonheur ».
Ah, ça c'est compliqué, parce qu'on ne peut pas y échapper. De toute façon, l'amour, il vous mène par le bout du nez. Mais on sait qu'on va au-devant de grandes souffrances. D'abord, parce qu'il y a un risque dans l'amour. Et c'est pour ça que je suis si contrariée, si fâchée contre les sites de rencontres qui grillent l'étape du hasard, la rencontre, et l'étape successive qui est de l'inconnu, de savoir au-devant de qui on va et qu'on va découvrir au fur et à mesure avec cette attirance principale qui est la raison pour laquelle on s'attache on s'intéresse à une personne. Mais on n'est pas toujours heureux. On sait d'avance qu'on peut vraiment souffrir. Et il y a d'ailleurs des gens qui refusent ça. Il y a d'ailleurs une de mes histoires qui est l'histoire d'un homme qui refuse l'amour. Moi, ça m'est arrivé dans ma vie. Un homme qui m'a dit « je te quitte parce que je t'aime trop ». Parce qu'il avait peur de souffrir, il avait peur que ça engage trop de sa personne, que ça l'empêche de travailler, que ça l'empêche de faire une carrière.
C'est un principe de précaution.
Principe de précaution qui est très français malheureusement. Et quand on dit que les Français sont des grands amoureux, c'est faux. Les Français ont peur de l'amour. Parce que justement pour toutes ces raisons, c'est pas trop difficile de comprendre que l'amour va vous embarquer, va vous emmener, va éventuellement vous laisser un peu sur le carreau. Alors, les Français ne sont pas vraiment de grands amoureux. Moi, je suis russe d'origine, vous savez, alors j'ai peur de rien. Mais et surtout, j'ai l'impression que c'est dans le danger que résident les extases les plus grandes.
Il y a quelques minutes, vous parliez du hasard. Il y a ce vers de Paul Éluard qui dit « Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. » Et toute rencontre est une hypothétique histoire d'amour en puissance.
Absolument. Moi, je crois
beaucoup. Chacun en fait ce qu'il en veut.
Voilà. Et puis, il y a des degrés. Moi, je n'aime pas beaucoup. Je pense que les philosophes, ils parlent toujours du grand amour, l'amour absolu, celui qui vous envahit pour toute une vie. Moi, je crois qu'il y a des sortes, des quantités d'amour, des petits, des grands, des moyens. Chacun vit l'amour à sa hauteur, à sa mesure. Et il y a surtout cette chose extraordinaire que quand c'est très, très fort, on a l'impression que c'était écrit avant. On a l'impression qu'on ne fait qu'exécuter le destin. Alors ça, c'est toute la littérature antique, n'est-ce pas? Tous les dieux qui, de l'Olympe, manipulaient les humains et faisaient descendre les dieux sur terre pour changer les plans des uns et des autres. Et il y a quelque chose de très étrange là-dedans. C'est que vraiment, on a le sentiment qu'on ne fait qu'obéir à quelque chose qui a été prédestiné, préécrit.
Il y a une... On va dire un récit, hein, il faut dire un récit.
Il y a une nouvelle, parce que moi je ne rejette pas.
Hein. Où l'on comprend que ce qui unit un homme et une jeune femme, c'est la nourriture, c'est l'instant partagé autour d'une table d'un restaurant, donc un moment gastronomique. Vous parlez d'abonnement au plaisir épicurien, vous parlez de frisson orgasmique qui est lié à la dégustation d'un aliment. Là, on va dire, oh, bah, Chaméry, elle exagère un peu.
Eh ben non.
C'est d'abord, cette histoire. Un frisson orgasmique.
Cette histoire, elle m'est arrivée. C'est une histoire qui m'est arrivée avec un éditeur. J'étais très jeune.
C'est un éditeur qui se retrouve au restaurant avec un jeune auteur qui a un manuscrit à lui proposer.
Voilà, j'ai reconstitué cette histoire qui est une histoire fabuleuse qui m'est arrivée. Et je dois beaucoup à cet homme parce que c'était une forme d'initiation. Il y avait genre 40 ans de différence entre nous. Il était marié, il n'était pas du tout question d'avoir une idylle. C'était pas un homme dégoûtant qui justement exploite sa position pour pouvoir séduire des jeunes filles. Au contraire, mais il m'avait repéré. Il avait vu que j'avais une sorte d'acuité sensorielle. Et donc, il m'a embarqué dans une chose qu'il vivait plutôt tout seul, qui était la gastronomie. Mais c'était un très grand expert. C'est-à-dire, c'était un homme qui... pour qui la nourriture n'était pas simplement comme ça se nourrir ou le plaisir, c'était aussi la connaissance, l'approfondissement, la culture,
il y avait un discours.
Et il y avait toujours un discours. Et donc j'ai passé une quinzaine de repas avec cet homme qui donc, alors il avait repéré que j'étais quand même une gourmande, que j'étais quelqu'un qui s'intéressait à la gastronomie. D'ailleurs je l'ai prouvé puisqu'après j'ai écrit des livres de cuisine. Mais peut-être que je les lui dois parce que j'ai compris que la cuisine c'était hautement culturel, que ça n'est pas que l'essence. C'est aussi une façon de s'exprimer, et puis on change au cours de la vie. On n'a pas le même goût. Il y a des choses qu'on a adorées quand on est enfant, puis qu'on finit par ne plus aimer du tout, et on découvre des mets, des saveurs, des consistances, des chocs, des trucs comme ça. Et donc, ça m'est resté en tête. C'est pour ça, d'ailleurs, que je l'ai mis au début du livre, parce que je pense que cette nouvelle, elle est la plus littéraire de toutes. Non seulement parce qu'il s'agit d'un éditeur et d'un écrivain, mais elle est littéraire en ce fait que de lire un livre... C'est également très sensuel. Je pense qu'il y a une très grande intimité entre un auteur et un lecteur. Et que ça passe par les sens. Il faut que les caractères soient jolis dans le livre. Il faut que l'odeur du livre soit bon. C'est pour ça que je suis pour le papier, évidemment, à fond, vous l'avez compris. Et puis, je pense qu'il y a cette communication qui fait que l'auteur entraîne le lecteur dans des zones qu'il n'aurait pas parcourues sans cet auteur. Et c'est dans toutes les choses des sens de la vie sensuelle, ça existe. Les premiers amours, un homme qui vous fait découvrir le sexe, un homme qui vous montre aussi l'art. Par exemple, moi, je pense qu'on a besoin de guides en toutes choses. Et je suis très reconnaissante aux hommes différents que j'ai connus, ça s'est souvent passé comme ça, qui m'ont fait découvrir la peinture contemporaine, la musique, la danse. Et j'ai toujours associé ça à un amour.
La comédienne et romancière Macha Merrill à l'instant enregistrée en février 2014, alors qu'elle était l'invitée à Dijon du Club des écrivains de Bourgogne pour son recueil de nouvelles « L'amour dans tous ses états », paru alors aux éditions Flammarion. C'est peut-être aussi pour cela que Macha Merrill nous est si attachante dans Lyon, puisqu'elle a interprété le personnage de l'écrivain Colette dans un téléfilm. Et d'ailleurs, il y a, au sommaire du dernier Pays de Bourgogne, le numéro 267, le numéro d'octobre 2022, il y a un dossier Colette et le vin dans ce dernier numéro de Pays de Bourgogne, un trimestriel que nous affectionnons particulièrement dans Wagon Livre. Nous sommes ensemble jusqu'à midi sur Radion. Nous marquons une nouvelle pause musicale et juste après, il sera question de l'association des amis d'Alphonse Allais et de l'Académie Alphonse Allais, puisque nous entendrons Xavier Jaillard, porte-parole de cette association, et Philippe Davis, qui en est un des membres particulièrement actifs. C'est au programme juste après la virgule musicale que nous vous proposons.
Damn.
Wagon Livre, votre émission littéraire. En ces temps de confusion et de morosité, il n'est pas superflu de revenir sur le rôle de l'Association des Amis d'Alphonse Allais et l'Académie Alphonse Allais. L'Académie Alphonse Allais a d'ailleurs décerné le 7 novembre dernier le prix René de Obaldia 2022 à Richard Fussner pour son livre Le Petit Fussner, publié aux éditions du Sequoia. Alors nous sommes à Wagon Livre et à Radion, particulièrement heureux de cette récompense à Richard Fussner, que nous avions reçu d'ailleurs dans Wagon Livre au printemps de cette année 2022. Alors le prix Alphonse Allais, qui récompense une carrière artistique, a été décerné le 7 novembre dernier à Claude Lelouch. Le prix Jules Renard du roman a été décerné à Annie Dupéret. Le prix spécial du jury Jules Renard a été décerné à Lola Semonin pour la biographie de la Madeleine Proust. Et Lola Semonin, nous l'avons avec grand plaisir accueillie devant notre micro il y a plusieurs mois maintenant. Et puis surtout, j'insiste, je le répète, le prix René de Obaldia 2022 de la forme courte qui récompense Richard Fussner pour le Petit Fussner, le dictionnaire futile et cependant indispensable de la langue française, paru aux éditions du Séquoia. Voilà une très belle idée de cadeau de Noël. Alors, avant d'entendre Xavier Jaillard et Philippe Davis, que j'avais enregistré à Autun en avril 2015, je voudrais rappeler que l'association des Amis d'Alphonse Allais organise des événements médiatisés, institutionnels ou insolites, en s'appuyant sur la forte notoriété d'un aréopage de personnalités regroupées dans l'Académie Alphonse Allais. Elle participe à la promotion d'artistes humoristes qui exercent leur talent dans l'esprit alésien. Le conseil d'administration de l'association des Amis d'Alphonse Allais, qui est élu chaque année en assemblée générale, est composé donc de présidents d'honneur, Jean Amadou, disparu maintenant, et au bureau, le président, c'est Philippe Davis, que vous allez d'ailleurs entendre. Et puis, n'oublions pas, Xavier Jaillard, que vous allez également entendre d'ici quelques minutes, qui est le porte-parole de l'association des Amis Alphonse Allais. Tout de suite, on écoute Philippe Davis nous rappeler l'origine de l'association des Amis d'Alphonse Allais. Il s'agit d'un entretien enregistré lors de la fête du livre d'Autun en avril 2015.
L'association des Amis d'Alphonse Allais a été créée en 1934, il y a 80 ans, par un certain nombre de journalistes et érudits. Alors des journalistes, c'est pas un hasard, puisque Alphonse Allais, bon, auteur, a beaucoup écrit dans la presse, hein, dans le Sourire, le Chat Noir et beaucoup de revues de l'époque. Pendant 20 ans, cette association, elle a mené son train, elle n'a pas fait, sans aucun doute, beaucoup parler d'elle, mais 20 ans après, en 1954, Henri Janson a eu une idée tout à fait géniale pour dynamiser les actions de cette association, dont la vocation est naturellement de mieux faire connaître Alphonse Allais, son œuvre, son esprit. En 1954, Henri Janson a créé un collège de personnalités connues, médiatisées, ce qui est devenu l'Académie Alphonse Allais. Et aujourd'hui, cette Académie a 75 membres, tous des gens très, très, très médiatisés, ce qui nous permet d'organiser des manifestations pour une part des organisations institutionnelles, c'est-à-dire des intronisations de nouveaux académiciens, d'autre part des manifestations beaucoup plus insolites, mais de s'appuyer sur la notoriété de ce collège de personnalités très connues pour pouvoir médiatiser cet événement. C'est en ça que Henri Janson a eu une idée tout à fait géniale et qui différencie l'association des Amis d'Alphonse Allais d'associations de bon nombre d'écrivains qui se contente, comme on le dit souvent, d'aller fleurir la tombe une fois par an. Voilà. Et le premier académicien qui a été élu en 1954 pour information n'était autre que Eugène Ionesco.
Alors parmi les derniers intronisés à l'Académie Alphonse Allais, donc Lola Semonin, que je connais bien, parce qu'en fait elle est née à Morteau comme moi, c'est une franc-comtoise.
Oui, on le sait, oui, tout à fait. Et la Franche-Comté, je vous fais remarquer, va faire partie de notre région aussitôt que le regroupement sera effectif.
Ah oui, le regroupement Bourgogne-Franche-Comté.
Voilà.
Ce qui historiquement n'est pas complètement idiot.
Non, mais ça fait loin en voiture.
Alors, donc, dans les derniers intronisés, il y a aussi Gonzague Saint-Brie, Jean-Claude Morchouane, Hélène Delaveau. Je me rappelle de son très beau spectacle, La Républicaine en 89, où j'avais entendu une Marseillaise bachique, Allons enfants de la Courtille, c'est pour nous que le boudin gris, c'est pour nous qu'on l'a préparé. Enfin, je me rappelle, j'étais adolescent, j'avais adoré cette version.
Le répertoire d'Yvette Guilbert.
Oui.
Et y compris des opérettes. Elle a chanté Offenbach également. Elle a chanté la Péricole ou la Belle Hélène, je ne sais plus, mais au Théâtre des Champs-Élysées. Donc c'est une personne, en effet, qui a énormément d'humour et qui est tout à fait dans la veine des académiciens que l'on souhaite introniser.
Alors on compte aussi Gérald Dahan et puis une petite jeune, Gisèle Casadesu.
Absolument, qui fêtera ses 101 ans, on peut le dire, ses 101 ans le 14 juin prochain. Je me souviens de la date parce que c'est ma date anniversaire aussi, mais pas l'année.
Alors, un petit mot quand même sur cette fête du livre d'Autun. C'est, l'année dernière, vous étiez déjà là, je me souviens.
Oui.
C'est toujours un plaisir de venir à Autun. C'est une belle fête.
Oh, c'est mieux que ça. C'est l'enthousiasme, c'est la joie. Parce que Autun, j'ai toujours considéré que c'était la capitale des Gaules, que ça l'était resté, et puis qu'il n'y a pas de raison que ça change. Je trouve qu'on est vraiment à l'épicentre de la Bourgogne.
Alors, on est au cœur du goût des mots aussi, dans ce qui est... le temps d'un week-end, la plus grande librairie de Bourgogne. Un petit mot, Philippe Davy, sur le dictionnaire ouvert jusqu'à 22h, donc de l'Académie Alphonse Allais. C'est en collection point seuil, collection de poche. Alors, quelques petits extraits. Alors, là.
C'est un très gros succès de librairie, je vous le dis tout de suite. Hein. Mais je vais passer la parole à Xavier Jaillard, qui est le rédacteur en chef de ce dictionnaire.
Et porte-parole, en plus.
Et donc, qui va vous forcément... indiquer la genèse de la...
Alors, un jour, ma maman m'a dit, tu es dans une académie, quand on a une académie, on fait un dictionnaire, voire une encyclopédie. Je l'ai prise au mot. Je dirigeais le théâtre du Petit Héberto. Je l'ai dirigé pendant 4 ans. J'ai cessé de le diriger il y a à peu près 2 ans. Et à l'époque, j'avais donc une tribune. J'ai fait un appel auprès des membres de l'Académie et d'autres aussi pour avoir des définitions humoristiques. Et j'ai décidé de faire des dimanches midi où on ouvrait les portes du théâtre. C'était entrée libre. Et on disait aux gens, ben voilà, on va vous lire des définitions qu'on a reçues, vous allez voter pour ou contre, pouce en l'air, pouce en bas, et après, je ferai ce que je veux. C'est comme ça que ce dictionnaire est lu et est né. Il n'est pas très démocratique, vous voyez, mais ça a donné un vrai succès de librairie. Il est sorti au Cherche-Midi, dans une collection illustrée, de luxe, et puis devant le succès, ben, il est sorti une édition de poche, qui est celle dont vous venez de parler, chez Point.
Alors, par exemple, cunilingus, nom masculin, mot latin intraduisible, mais je l'ai sur le bout de la langue. Et en deuxième définition, sucette à la menthe.
Voilà.
Attention à l'orthographe de la menthe.
Alors, il y a des définitions très courtes, à l'emporte-pièce comme ça. Et puis, vous avez, car c'est une encyclopédie, de véritables articles, comme dans les encyclopédies, qui peuvent prendre plusieurs pages et qui vous donnent des informations absolument complètes sur un sujet.
Alors, il y en a une, par exemple, la définition de hibou, nom masculin, est avec bijou, caillou, chou, genou, joujou, pou, l'un des 7 substantifs de la langue française classé X.
Il y a aussi coin, définition de coin, demi-canard. C'est court, ça, hein ?
Bravo, oui. Constipation, manque de générosité intestinale.
Oui.
Donc, on rappelle, c'est le dictionnaire ouvert jusqu'à 22h de l'Académie Alphonse Allais. Alors, pourquoi jusqu'à 22h ?
Parce qu'après, il faut aller se coucher. Et puis, on a hésité, on a balancé entre 2 titres. Il y avait celui-là, ou bien dictionnaire pour caler l'armoire. On ne sait pas lequel était le plus efficace des deux. On a choisi celui fermé. Je vais vous dire pourquoi. Il y a un petit clin d'œil à Alphonse Allais. Je crois que c'est Mac Mahon qui avait écrit un essai. Non, c'est Napoléon III. Je crois qu'il avait écrit un essai qui s'appelait « De l'extinction du paupérisme ». Et Alphonse Allais s'était proposé d'écrire une suite qui s'appellerait « De l'extinction du paupérisme après 20 heures ». Alors, faire un dictionnaire ouvert jusqu'à 22 heures était une espèce de clin d'œil à notre maître.
Alors, la quatrième de couverture, elles sont délicieuses. Alexandrin, nom masculin, égyptien monstrueux à 12 pieds. Christ, Jésus, fils de Dieu et de mère inconnue, on ne sait toujours pas où il crèche. Mon Dieu, vous allez vous faire excommunier.
C'est comme ça d'un bout à l'autre du livre.
Philippe Davis, le président de l'association des Amis Alphonse Allais, et Xavier Jaillard, porte-parole de l'association des Amis Alphonse Allais, enregistré en avril 2015 à la fête du livre d'Autun. Concernant les prix décernés par l'Académie Alphonse Allais, je rappelle que Claude Lelouch a reçu le 7 novembre dernier le prix Alphonse Allais qui récompense une carrière artistique. Annie Dupéret reçoit le prix Jules Renard du roman pour Le Tour des Arènes paru aux éditions du Seuil. Lola Semonin, l'inventeur du personnage de la Madeleine Proust qui reçoit le prix spécial du jury Jules Renard pour la biographie de la Madeleine Proust, et nous en sommes extrêmement heureux, puisque Lola Sebonin était l'invitée de Wagon Livre le 8 octobre dernier, et Richard Fussner, le directeur du château du Clos de Vougeot, qui est récompensé du prix René de Obaldia de la forme courte pour Le Petit Fussner, dictionnaire futile et cependant indispensable de la langue française, paru aux éditions du Séquoia. Richard Fussner, que nous avions eu dans Wagon Livre le 9 avril dernier. Il ne me reste plus qu'à vous rappeler que si vous avez manqué une partie de cette émission, vous la retrouvez sur le site d'archives de Wagon Livre via internet sur le www.yannickpetit.fr. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent congé de fin de semaine et je vous donne rendez-vous bien sûr samedi prochain 26 novembre, toujours à 11h sur Radion. Merci de votre écoute et de votre fidélité. Au revoir et à samedi prochain.